Haïti, bonjour Michael Ponge.
Bonjour, bonjour Johan, il est 8h10 à Bogota. Ingrid Betancourt, pour la première fois face à ses ravisseurs des FARC, c'était hier en Colombie, l'ex-otage revient sur cette confrontation au micro d'RFI. On s'arrêtera aussi aujourd'hui sur les ambitions de Joe Biden pour enrayer la violence par arme à feu aux États-Unis, la campagne de répression qui se poursuit encore contre l'opposition au Nicaragua, et puis la fin de la campagne sucrière en Guadeloupe. Benoît Ferrand, c'est à la une du journal de la première.
Oui, et le blues des planteurs de Marie-Galante après leur usine en panne, c'est l'usine en Guadeloupe qui va fermer ses portes alors que la récolte n'est pas terminée chez eux.
À tout à l'heure, Benoît, et bienvenue à tous. Et commençons par les États-Unis. Bonjour Romain Lemaresquier.
Bonjour Michael, bonjour à tous.
Le bout du tunnel, peut-être pour Joe Biden et son méga plan d'investissement dans les infrastructures. 1,2 milliard de dollars. La presse, ce matin, Romain, nous apprend qu'un accord bipartisan aurait été conclu.
Et oui, c'est la fin d'une impasse qui durait depuis plusieurs semaines, explique USA Today. Cet accord, présenté comme radical par le quotidien, vise à moderniser les systèmes de transport américains qui se détériorent, tels que les chemins de fer, les ponts et les voies navigables. 1,225 milliard de dollars vont être injectés au cours des 8 prochaines années, selon le sénateur démocrate Joe Manchin. Ce dernier a participé à l'élaboration de ce plan avec 11 sénateurs républicains et 9 autres démocrates. Et même s'il reste des détails à régler, selon Susan Collins, sénatrice républicaine du Maine, dans des propos repris par le Washington Post, ce plan devrait obtenir l'approbation des législateurs des deux chambres désireuses, non seulement de remédier à la condition physique en ruine du pays, estime USA Today, mais également de montrer que les deux parties peuvent toujours parvenir à un consensus bipartisan au sein d'un congrès de plus en plus partisan.
Une entente bipartisane aussi qu'a appelé de ses vœux hier Joe Biden au sujet d'un fléau qui frappe l'Amérique, celle des armes à feu. Les homicides aux États-Unis ont bondi de 30% entre 2019 et 2020. Le président a présenté hier une série de mesures comme le renforcement des contrôles sur les marchands d'armes. Il a aussi promis une tolérance zéro à l'encontre de ceux qui ne respectent pas scrupuleusement la réglementation en vigueur. On écoute Joe Biden.
Nous nous attaquons aux personnes nocives qui font du mal et mettent nos communautés en danger. Parlez aux détenteurs d'armes responsables et aux chasseurs. Ils vous diront que personne ne peut justifier le besoin de détenir un chargeur qui contient plus de 100 munitions. Il y a trop de gens aujourd'hui qui peuvent acheter des armes alors qu'ils ne le devraient pas. Montrons au monde, à nous-mêmes, que la démocratie fonctionne, que nous pouvons nous rassembler en tant que nation. Nous pouvons faire cela et sauver des vies.
Une réforme qu'aura bien du mal. Il le sait, Joe Biden a passé l'épreuve du Congrès. Venons-en à ces centaines de tombes anonymes découvertes hier au Canada près d'un ancien pensionnat autochtone dans la province de la Saskatchewan. Romain, c'est un organisme soutenant les communautés autochtones qui a mis au jour ces tombes.
Et oui, ces tombes ont été découvertes sur le site de l'ancien pensionnat de Marieval, une institution fermée depuis 1997, mais qui a œuvré pendant près d'un siècle, précise le journal de Montréal. Il s'agit du plus grand nombre de tombes découvertes à ce jour, selon un communiqué de la Fédération des Nations Autochtones Souveraines. Le nombre de victimes dépasserait les 300, une découverte qualifiée d'absolument tragique, mais pas surprenante par le chef de l'Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde, dans les pages de la presse. Comme le rappelle le quotidien, cette découverte survient quelques semaines après celle des restes de 215 enfants autochtones sur le site d'un autre ancien pensionnat en Colombie-Britannique. Une information qui avait provoqué une onde de choc dans le pays, rappelle le quotidien.
Depuis, Romain, est-ce que les autorités prennent la mesure de ce qui s'est passé?
Eh bien, selon la presse, les autorités canadiennes ont annoncé le financement de nouvelles recherches sur d'autres sites d'anciens pensionnats. Et le Premier ministre Justin Trudeau a d'ailleurs lui-même reconnu la faute du Canada et promis de ne pas fermer les yeux, précise le quotidien. La presse qui rappelle que près de 150 000 enfants autochtones ont été placés de force dans 139 pensionnats à travers le pays. Des enfants qui ont été séparés de leur famille, de leur langue et de leur culture.
RFI. On ne cesse d'en parler à mesure qu'approche la présidentielle de novembre au Nicaragua. Cette vague d'arrestations orchestrée par le président Daniel Ortega dans les rangs de son opposition, 19 personnes interpellées, des politiques mais aussi des journalistes, comme en témoigne Carlos Fernando Chamorro, directeur du journal Confidential. Il dénonce des manœuvres sans fondement.
La police a pris d'assaut ma rédaction le 20 mai, pour la seconde fois. Ils l'avaient déjà fait avant, en décembre 2018. Lorsque je parle d'assaut, c'est parce qu'ils sont entrés dans cette rédaction alors qu'il n'y avait qu'un photographe à l'intérieur et qu'ils ont tout volé, tout le matériel, sans aucun mandat. Et ce lundi, plus de 30 policiers sont entrés dans ma maison pour me capturer sans le moindre mandat judiciaire, sans aucune justification légale. Ils ne m'ont pas capturé parce que je me suis mis à l'abri pour protéger ma liberté et celle de ma femme, pour pouvoir continuer à faire mon travail de journaliste.
Des propos recueillis par Marilyn Lavado. Carlos Fernando Chamorro a d'ailleurs confirmé qu'il avait quitté le pays. Romain, face au tollé international suscité par ces arrestations, le président Ortega s'est justifié.
Oui, à 5 mois des élections, Daniel Ortega a expliqué, selon la revue mexicaine Milenio, que les 19 personnes arrêtées ces dernières semaines ne sont ni des politiciens, ni des candidats, mais des criminels qui agissent contre les intérêts de leur pays en tentant de fomenter un coup d'État. Le président nicaraguayen accuse les États-Unis d'en être l'instigateur, sans plus de précision. Des arrestations qui continuent d'être dénoncées à l'étranger, rappelle Ultima Hora ce mercredi. Ce sont les Nations Unies qui ont demandé à nouveau la libération de tous les prisonniers politiques. L'ONU qui appelle également les autorités nicaraguayennes à respecter ses obligations en matière de droits de l'homme, au lendemain d'une missive de l'ONG Human Rights Watch qui pointait du doigt justement l'immobilier des Nations Unies.
Et on en parlait hier justement déjà dans notre rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Avant de poursuivre, Romain, l'actualité haïtienne tout de suite toujours dominée par la violence des gangs et le Covid.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
En ligne avec nous de Port-au-Prince, Franz Duval, le rédacteur en chef du Nouvelliste. Bonjour Franz.
Bonjour Michael.
Le Covid donc qui fait encore les gros titres aujourd'hui avec le décès de René Sylvestre, le président de la Cour de cassation.
Alors il était juge, il était président de la Cour de cassation et président du Conseil supérieur de la justice. Et c'est le plus haut magistrat en Haïti. Il est décédé du Covid dans un hôpital à Mirbalay. Il s'en va, il laisse sa famille dans le deuil, il laisse la justice orpheline. Mais surtout, il laisse une institution, la Cour de cassation, dans la tourmente, car la Cour a été impliquée dans des dossiers ces derniers temps qui étaient très compliqués. Il y a eu un juge arrêté pour tentative de coup d'État, avait dit le gouvernement. Des juges qui ont été mis à la retraite, qui font aujourd'hui des procès contre le gouvernement pour mise à la retraite de façon illégale. Il laisse aussi la justice pendant les 2 ans de son mandat, qui a été surtout une justice en grève. Les tribunaux ont très peu siégé ces 2 dernières années en Haïti. Une institution importante en Haïti, encore une fois, se trouve paralysée.
Parmi les personnalités frappées par le Covid aussi, Franz, il y a l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, testé positif. Il doit se rendre aujourd'hui à Cuba pour être soigné.
C'est ce qui se dit dans les rangs du gouvernement, car du côté du président Aristide, il n'y a pas eu de communication officielle. Il avait été testé positif à la Covid, effectivement. Il fait partie de ces personnalités d'un certain âge qui se retrouvent pris dans la vague Covid.
Un autre sujet, Franz, à part le Covid qui fait la une, on en parle maintenant. Depuis plusieurs semaines, les déplacés de Martissant, victimes de la guerre des gangs, ils sont, on le répète, dans une situation extrêmement précaire. Et concernant leur avenir, France, c'est l'incertitude.
C'est l'incertitude la plus totale. Le Nouvelliste, encore une fois, a rendu visite aux déplacés de Martissant. Ils habitent un centre sportif. Ils sont logés dans une grande salle. Ils sont près de 1500. Ce qui les inquiète aujourd'hui, 23 jours après, c'est qu'il n'y a pas de perspective d'avenir. Certains ont décidé d'aller retourner vivre en province. D'autres attendent et espèrent encore, mais ont de mauvaises nouvelles de leur maison, car les maisons qui sont restées vides ont été pillées. Certaines maisons ont été brûlées par les gangs. Et je dois dire que c'est l'incertitude qui taraude ces familles qui se retrouvent dans ce camp où le gouvernement a promis assistance, mais l'assistance tarde à venir parce que traverser Martissant pour aller au centre sportif de Carrefour, c'est toujours compliqué. Il y a beaucoup de balles perdues qui frappent ceux qui essaient de traverser Martissant pour aller à Carrefour.
Des pillages que vous évoquez, France, des pillages que dit soutenir Barbecue, le chef du groupe G9, ce regroupement de gangs, il annonce la révolution.
Tout à fait. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux en Haïti. C'est une vidéo où on voit une 50aine de jeunes hommes armés d'armes automatiques, de pistolets, de machettes, et avec eux, à leur tête, Barbecue, cet ancien policier devenu chef de gang qui agit sur Port-au-Prince, sur l'aire métropolitaine en général, et il annonce qu'ils vont faire voir aux bourgeois, aux opposants et même au gouvernement et de quel bois ils se chauffent. Et ils annoncent qu'il y aura encore des pillages, qu'il y aura encore des attaques contre les supermarchés, contre les concessionnaires automobiles, contre les banques, contre les nantis en général. Et c'est la révolution.
Des sujets à retrouver, à lire dans les colonnes du Nouvelliste de ce jeudi. Franz Duval, le rédacteur en chef, avec nous. Merci.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
C'était hier, en Colombie.
Con el dolor de oírnos y con el pudor de nuestras emociones.
Les mots et l'émotion d'Ingrid Betancourt. Pour la première fois, la franco-colombienne, ex-otage des FARC pendant 6 ans dans la jungle colombienne, elle a été confrontée à d'anciens membres de la guérilla. C'était dans le cadre de la commission de la vérité mise en place à l'issue des accords de paix de 2016. Avec la douleur de nous écouter, avec la pudeur de nos émotions, a-t-elle dit. On l'entendait il y a quelques instants, tout juste, Véronique Guémard a pu joindre Ingrid Betancourt qui revient sur cette confrontation.
Je me suis rendu compte que il n'y avait pas de sentiment de haine envers eux. Je pouvais les regarder, enfin, et en les regardant, je me suis sentie apaisée. J'avais pas l'impression d'être devant des personnes qui m'auraient produit des sentiments de dégoût ou de haine ou de et c'était un petit peu ce que j'anticipais. Donc là, ça m'a rassurée.
Ils n'ont pas versé de larmes, vous avez dit, hein, c'est ce que vous avez dit hier.
D'un côté, tout le monde pleurait, et de l'autre, rien. Et ça, c'était très, très fort, c'est très, très visible.
En même temps, justement, les représentants des FARC qui étaient là, qui étaient à la commission de la vérité, ont demandé pardon. Alors, par exemple, Rodrigo Londoño, l'ancien secrétaire des FARC, lui, donc le plus haut commandant, le dernier plus haut commandant, s'est exprimé juste avant vous à la commission de la vérité. Il a dit « Acceptez-vous que vous, de nous pardonner ?» Alors finalement, est-ce que vous acceptez de leur pardonner ? C'est compliqué.
Ben, le pardon est déjà fait. Mes compagnons l'avaient exprimé avant moi, ils avaient dit, un d'entre eux avait dit « j'ai pardonné pour survivre », parce qu'il fallait que je puisse fermer la porte du passé et que je puisse réapprendre à être heureux, et que pour ça il fallait que je pardonne, et j'ai pardonné. Et je crois que nous avons tous fait ce chemin de pardon, non pas parce qu'on nous demande le pardon, mais parce qu'on a besoin de pardonner pour se libérer de toutes ces émotions. Mais Rodrigo Londoño a dit quelque chose que je n'ai pas relevé sur le moment, mais qui, moi, m'a vraiment choquée. Il a dit « J'espère que la conscience des victimes qui ne nous ont pas pardonné se réveillera un jour. » Moi, dans mon silence, je lui ai répondu « Et votre conscience à vous ? Elle est où, votre conscience à vous ?» Si vous voulez, la conclusion à laquelle je suis arrivée après tout cet acte, c'est que nous, les victimes, on avait fait un grand, grand chemin, mais que eux, ils avaient encore l'armure de la guerre, incapables de se mettre à nu pour parler de leurs émotions et de leurs sentiments. Je pense que c'est parce qu'ils ne peuvent pas. Je pense que c'est le traumatisme de la guerre. Je pense qu'ils ont une incapacité à sentir. Et c'est cette incapacité à sentir qui est le produit de la déshumanisation, processus par lequel ils sont passés, parce qu'ils ont tué de façon infâme, que cette guerre les a dénaturés, si vous voulez. Quand je faisais appel à leurs sentiments, c'est parce que tant que je ne vois pas chez eux des émotions, je sais que dans leur cœur, ils n'ont pas compris ce qu'ils nous ont fait.
Alors, il y a quand même eu ces accords de paix qui ont été signés en 2016. Tout un chemin, vous le disiez, justement, qui a été engagé. La mise en œuvre est encore balbutiante, et notamment en ce qui concerne la lutte contre les inégalités, la répartition des terres. Il y a encore beaucoup de choses. La pandémie qui est passée par là. Il y a une crise actuelle en Colombie. Depuis 2 mois, donc, des grèves et des barrages et de la jeunesse aussi qui se révolte puisqu'elle considère qu'elle n'a pas d'avenir. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre ces accords de paix qui ne sont pas encore vraiment bien mis en œuvre et cette effusion de colère ?
Oui, tout à fait. D'abord parce que je pense que la Colombie qui a toujours remis à plus tard la solution des problèmes sociaux parce que nous étions en guerre et que donc tout le budget était toujours en priorité dirigé vers la défense et les forces armées et essayer de contenir la violence, se retrouve maintenant dans un pays qui est en transition et dans laquelle, parce qu'il y a eu une restriction budgétaire à cause de la pandémie, etc., n'a pas su répondre aux attentes d'une société, surtout d'une jeunesse, qui n'a jamais eu d'opportunité.
Vous avez rencontré le président. Vous avez rencontré le président Iván Duque lundi. Qu'est-ce que vous lui avez dit à ce propos?
Je lui ai dit une des choses qui pour moi était inacceptable de la part du gouvernement, c'était que au moment où les jeunes sont sortis dans les rues manifester, il a réagi avec la répression. Et la narrative du gouvernement, c'était ce sont des terroristes, ce sont des voyous. Et ça, c'est le produit encore de ces traumatismes de guerre qui fait que tous ceux qui s'opposent à l'État sont vus comme des voyous et ou comme des terroristes. Et c'est vrai que là où il y a un lien entre l'horreur que nous avons vécue et ce qui arrive en ce moment en Colombie, c'est que ces jeunes auxquels on leur envoie une police armée que l'on tue, il y a eu quand même 43 morts. Que l'on confronte avec la répression, eh bien, c'est le résultat d'un pays et d'un gouvernement et d'un État qui voient en eux des FARC parce qu'ils ont l'audace de réclamer leurs droits. Et ça, c'est quelque chose de dramatique.
Ingrid Betancourt, l'ex-otage des FARC, joint en Colombie il y a quelques minutes à peine par Véronique Guémard.
Le journal de l'Outre-mer.
Et c'est bien sûr avec vous, Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour, Mickaël.
La campagne sucrière touche à sa fin en Guadeloupe, une campagne qui ne laissera pas un bon souvenir aux planteurs de Marie-Galante.
Eh non, leur usine qui tombe en panne dès le début de la campagne, leur canne à sucre transférée par voie maritime jusqu'à la Guadeloupe, dite continentale, et maintenant, cerise sur le gâteau, l'usine de Gardel qui va refermer ses portes alors que la récolte chez eux n'est pas terminée. Oui, l'année 2021 restera une année noire pour les planteurs de la Grande Galette. Josiane Champion.
Pour être rentable, la sucrerie ne peut tourner à moins de 3200 tonnes de canne par jour. Impossible, bien sûr, avec les seules livraisons de Marie-Galante, 800 à 900 tonnes chargées quotidiennement sur la barge. Depuis le 21 mai, 13 000 tonnes seulement ont pu être transférées vers le moule. Le volume total, d'ici le 10 juillet, ne devrait pas dépasser les 28 000 tonnes, loin des 69 000 qui restaient à récolter après la casse de la chaudière le 14 avril. Au final, 41 000 tonnes de canne devraient donc rester debout cette année à Marie-Galante. Un volume qui aurait pu être limité à 25 000 tonnes, estime la SICAMA, si l'opération de transbordement avait démarré comme prévu le 7 mai et s'était déroulée sans embûche entre les barrages par les opposants au transfert, l'accident de la barge le 3 juin, puis le blocage du chenal de Pointe-à-Pitre par les pêcheurs. Cela fait 19 jours de convoyage perdu, soit 16 000 tonnes de canne non envoyées à Gardel. Pour les planteurs marie-galantais, c'est une perte d'1,3 million d'euros qui aurait pu être évité, souligne la coopérative, dont la situation financière va aussi pâtir de ce manque à gagner.
On reste en Guadeloupe avec de bonnes nouvelles tout de même, de bonnes nouvelles sur le front de l'épidémie de Covid-19. Les chiffres seraient désormais en constante amélioration. Franck Aristide.
Taux d'incidence, taux de positivité, taux de reproduction, tous les indicateurs sont en baisse. Le variant britannique ou alpha reste celui qui est majoritaire, mais d'autres variants ont été retrouvés sur le territoire. Le sud-africain ou bêta, le brésilien ou gamma, l'indien ou delta, le californien ou lota. Quasiment tous détectés sur des voyageurs et donc a priori des cas isolés. Sur le front hospitalisation, 2 personnes sont entrées en réanimation cette semaine et 21 patients sont aujourd'hui dans ce service de soins intensifs. Des chiffres encore importants, mais qui témoignent tout de même d'une baisse de la tension hospitalière. Malgré tout, encore un décès à signaler, celui d'un homme de 63 ans.
Bon après-midi, Mickaël. À demain.
Merci beaucoup, Benoît Ferrand, à vous et aux équipes de La Première. Ainsi se termine ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques réalisé par Claude Battista. Vous pouvez, vous le savez, nous retrouver, nous réécouter sur RFI Pure Radio et commenter aussi l'actualité via les réseaux sociaux, notamment sur Twitter avec @RFI Amérique. Très bonne journée à tous et à demain.
RFI, c'est aussi sur notre site mobile m.rfi.fr et sur nos applications iPhone et Android. Du 30 juin.